France Musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Et maintenant, François-Xavier Jemczak.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Stéphane Poitevin, Antoine Giraud et Olivier Dehaye. Voici la quatrième et dernière émission de notre série consacrée à Arturo Benedetti Michelangeli, un siècle après la naissance de cette légende du piano, disparue en 1995 et dont l'art s'est partiellement transposé dans ses enregistrements, comme ici le 22 janvier 1943, en compagnie de Jean-Sébastien Bach. Finale du concerto italien en fa majeur BWV 971 de Jean-Sébastien Bach, enregistré au début de l'année 1943 par Arturo Benedetti Michelangeli. Cette année-là, Michelangeli épouse une pianiste, Giulia Linda Guidetti, qui sera fort discrète. On remarquera assez peu ce compagnonnage. En 1970, les deux vont se séparer et Arturo Benedetti Michelangeli va partager sa vie avec une autre femme, Marie-Josée Gros-Dubois, qui sera son agent, sa partenaire. Apollinaire, certains reprochant à cette Marie-Josée Gros-Dubois de protéger un peu trop le maestro du monde extérieur. En tout cas, Michelangeli et les femmes, c'est tout un chapitre que nous n'aborderons pas puisque c'est le pianiste qui nous intéresse, le musicien avant tout, à travers ses différents enregistrements. Et comme les précédents jours de cette semaine, nous évoquons Michelangeli à travers l'histoire de la musique de l'âge baroque jusqu'au début du XXe siècle. Et nous voici après Bach en compagnie de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est 10 ans après l'enregistrement qu'on vient d'entendre, en 1953, qu'Arturo Benedetti Michelangeli avait enregistré le 23e concerto de Mozart en compagnie d'un orchestre napolitain, l'orchestre Alessandro Scarlatti de la RAI de Naples, dirigé par Franco Caracciolo. Thank you. avec le modeste orchestre Alessandro Scarlatti de la RAI de Naples, dirigé par Franco Caracciolo. Arturo Benedetti Michelangeli était en apesanteur dans ce 23e concerto de Mozart, dont nous écoutions le mouvement central Adagio, concerto en La majeure, Köchel 488, enregistré fin novembre 1953 au conservatoire San Pietro a Maiella de Naples. Et nous allons retrouver Michelangeli une quatrième et dernière fois dans la même pièce, la même partition qu'il a accompagné tout au long de sa carrière, cette troisième sonate de l'opus 2 de Ludwig van Beethoven. Nous avions écouté dans une version napolitaine en 1941, en 55 à Varsovie, en 65 à Salzbourg. Eh bien, voici une dernière version donc, qui a été donnée le 11 novembre 1975 à la salle Pleyel. C'est un jour férié. Les Parisiens s'étaient rués pour entendre Michelangeli sur l'un de ces deux Steinway, Steinway C ou Steinway D. Les organisateurs et le public priant pour que la salle ne soit ni trop chaude, ni trop froide, ni trop aérée, ni trop peu. Bref, Arturo Benedetti Michelangeli n'avait pas annulé ce récital. Il a été enregistré et il a été édité avec l'accord des ayants droit de Michelangeli. Voici donc le final de cette sonate opus 2 numéro 3 de Beethoven. Vous pouvez maintenant jouer à la tribune des critiques de disques en élisant, pourquoi pas, la meilleure version, selon vous, de cette sonate par Arturo Benedetti Michelangeli, celle qu'il avait enregistrée à Naples en 41, à Varsovie en 55, à Salzbourg en 65, ou alors celle-ci, le 11 novembre 1975, à la Salle Pleyel à Paris. Quelques années auparavant, Arturo Benedetti Michelangeli avait connu de gros déboires financiers, on le savait, amateur de belles mécaniques, comme des Ferrari, par exemple. Eh bien, Pier Carlo Della Ferrera raconte cette histoire qui s'est déroulée en 1968 en qualité de membre de la maison de disques BDM, BDM comme Benedetti Michelangeli, maison de disques de Bologne. Le pianiste est touché par la faillite de celle-ci, sans demi-mesure et sans considérer les clauses du contrat qui relevaient le maestro de toute responsabilité. Les officiers judiciaires lui notifient la confiscation préventive des biens et de tous les gains des concerts qu'il devait donner en Italie pour une somme de 89 millions de lire. À l'humiliation et au dommage moral s'ajoute le problème économique à cause duquel il se trouve contraint d'exécuter son activité professionnelle à l'étranger. Il gardera sa résidence à Bolzano, mais il vivra dorénavant entre Rabi et la Suisse et ne jouera plus dans sa patrie si ce n'est l'occasion du concert de bienfaisance au Théâtre Grande de Brescia en juin 80 en mémoire du pape Paul VI. Benedetti Michelangeli va donc s'installer en Suisse à partir de 1969 et plus exactement à Pura en août 1979 dans une villa qu'il va laisser peu après à Vladimir Ashkenazi, qui est avec son fils Vovka et sa femme, et bien les actuels propriétaires de cette villa où a vécu, joué et travaillé Arturo Benedetti Michelangeli. Et c'est là-bas en Suisse, bien sûr, qu'il a formé certains de ses disciples comme Martha Argerich ou encore Maurizio Pollini. Bien justement, 1979, au moment où il s'établit à Pura en Suisse, Arturo Benedetti Michelangeli enregistre le concerto numéro 1 de Beethoven avec l'orchestre symphonique de Vienne, dirigé par Carlo Maria Giulini.
Thank you. Thank you.
Arturo Benedetti Michelangeli en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Vienne, dirigé par Carlo Maria Giulini, dans ce premier concerto de Beethoven, l'opus 15 en do majeur, dont nous écoutions le rondo final. Enregistrement au sujet duquel celui qui fut son collaborateur pendant 17 ans, Cort Garbon, écrit « Un matin, Michelangeli n'est pas venu à la générale d'avant-concert au Musikverein, au programme figurait ce concerto de Beethoven, et j'ai dû à brûle-pourpoint me mettre au piano et faire la répétition pour que les équipes de télévision puissent régler leur mouvement de caméra pour la retransmission du soir. Je connaissais bien le concerto, mais je ne l'avais jamais joué en public. J'ai eu ainsi une nouvelle fois l'occasion de tester mes capacités de lecture à vue. Une fois tiré de ce mauvais pas, nous nous sommes demandé ce qui avait motivé le comportement surprenant de Michelangeli. Son agent a expliqué que l'humidité de l'air était bien plus élevée que le jour précédent, les marteaux étaient donc plus lourds et la mécanique réagissait différemment. Ce problème d'humidité venait soi-disant des monceaux de fleurs qui couvraient le bord de la scène sur toute sa longueur. Tout le monde savait que ça ne pouvait pas être la vraie raison du refus de jouer du pianiste. Quand on travaille depuis des années dans ce milieu et connaît les innombrables excuses et prétextes avec lesquels un interprète s'emploie à diminuer la pression avant le concert, ce n'est pas la bonne eau minérale, le piano est mal accordé, l'éclairage est aveuglant, on cherche des explications du côté psychologique. En fin de compte, l'explication était simple, notre perfectionniste était extrêmement tendu et entendait se procurer une raison au cas où le concert ne se passerait pas bien. Et cette raison, c'était que la répétition la plus importante n'avait malheureusement pas pu avoir lieu à cause du changement d'humidité dans l'air qui l'aurait empêché de maintenir son niveau de jeu en répétition. Finalement, le concert a été grandiose, conformément au lieu illustre où il se déroulait. Michelangeli était dans les meilleures dispositions du monde et a superbement joué. Cet incident en dit long sur un interprète qui se retrouvait toujours en conflit avec les exigences énormes qu'il s'imposait.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Suite et fin du Carnaval opus 9 de Robert Schumann. On nous a écouté la première moitié dans les premières émissions de cette série. Nous retrouvons Arturo Benedetti Michelangeli dans cette partition de Robert Schumann avec tout d'abord Estrella.
Thank you. Thank you.
Estrella, Reconnaissance, Pantalon et Colombine, Valse allemande, Intermezzo Paganini, Aveu, Promenade, Pause et à l'instant Marche des compagnons de David contre les Philistins. C'était la fin du Carnaval Opus 9 de Robert Schumann que nous entendions, enregistré en mars 1957 dans les studios de la BBC à Londres par Arturo Benedetti, Michelangeli sur France Musique. C'est magique la façon dont Arturo Benedetti, j'en bafouille, Arturo Benedetti, Michelangeli interprète cette valse en mi bémol majeur de Chopin. Il avait profité de sa présence à Londres en mars 1957 pour enregistrer le Carnaval Opus 9 de Schumann qu'on entendait tout à l'heure, et puis pour donner un concert au cours duquel les heureux spectateurs londoniens avaient pu entendre notamment cette valse en mi bémol majeur. Voici quelques années plus tard, en 1980-81, pour Deutsche Grammophon, un disque dont nous avons déjà écouté un extrait, un disque Brahms Schubert avec la sonate Deutsch 537 de Schubert, avec les quatre ballades opus 10 de Johannes Brahms que Benedetti Michelangeli a enregistré sur un piano des années 1910-1920.
Thank you.
Cet enregistrement a été réalisé sur un instrument de plus de 60 ans d'âge. Voilà ce qui est écrit sur ce disque Deutsche Grammophon de 1981. Et Arturo Benedetti Michelangeli ainsi que notre technicien profitaient de la résonance de cet accord final dans la ballade en si mineur, opus 10 numéro 3 de Johannes Brahms. Et c'est maintenant au tour de Claude Debussy. Suivant le schéma de ses émissions cette semaine, nous suivons l'ordre chronologique des partitions jouées par Arturo Benedetti Michelangeli avec Claude Debussy, rencontre au sommet, l'un des plus grands interprètes de ces images et autres préludes. Nous puisons dans le deuxième livre des préludes deux pièces, tout d'abord Général Lavine excentrique et ensuite La terrasse des audiences au clair de lune.
Thank you.
Général Lavigne excentrique, dans le style et le mouvement d'un cakewalk, et à l'instant, la terrasse des audiences du clair de lune, lent, nous dit Claude Debussy sur sa partition, extrait du deuxième livre de ses préludes par Arturo Benedetti, Michelangeli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et tout comme nous avions écouté l'intégralité du Carnaval de Schumann, nous allons écouter en intégralité Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, d'après les poèmes d'Aloysius Bertrand. On avait entendu Ondine, le premier mouvement, le 15 septembre 1960 à Prague. Et voici le second mouvement, c'est le JB, enregistré au Vatican dans la salle Nervi le 13 juin 1987. Maurice Ravel qui s'inspire donc de ce poème, qui porte en épigraphe un extrait de Faust. Que vois-je remuer autour de ce JB ? Et ce poème, le voici. Ah, ce que j'entends, serait-ce la bise nocturne qui glapit, ou le pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire? Serait-ce quelques grillons qui chantent, tapis dans la mousse, et le lierre stérile dont par pitié se chausse le bois? Serait-ce quelques mouches en chasse, sonnant du corps autour de ses oreilles sourdes à la fanfare des halali? Serait-ce quelque escarbot qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne chauve, ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate à ce col étranglé? C'est la cloche qui tinte au mur d'une ville sous l'horizon et la carcasse d'un pendu que rougit le soleil couchant. Voilà ce qui fait partie de ce qu'on appelle les enregistrements du Vatican d'Arturo Benedetti Michelangeli, qui était dans la salle Nervi le 13 juin 1987 pour jouer Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, dont nous écoutions le JB. Et je lisais tout à l'heure ce poème d'Aloysius Bertrand avec l'escarbot, et non pas l'escargot, c'est bien l'escarbot que j'ai prononcé. C'est un coléoptère qui a la particularité de contenir dans son nom le mot scarbot. Et bien justement, scarbot, c'est le troisième et dernier volet de ce Gaspard de la Nuit. Ici, le 30 juin 1959, avec notre héros de la semaine, ABM. 30 juin 1959, à Londres, Arturo Benedetti, Michelangeli interprétait Gaspar de la nuit de Maurice Ravel dont nous écoutions le Scarbo final. Un disque qui a été publié par la BBC, par le producteur William M. Robson, qui livre des témoignages très intéressants sur Michelangeli et sur ce qu'il a pu entendre, notamment en 1982 avec d'autres enregistrements réalisés avec la BBC. J'ai observé, écrit-il, la préparation des deux pianos pour le récital en question. Michelangeli faisait les 100 pas dans le fond de la scène du Royal Festival Hall pendant que le technicien harmonisait l'instrument. Lorsqu'il avait fini ses réglages et mis le clavier en place, Michelangeli arrivait et jouait, montrant du doigt certaines notes que le technicien marquait à la craie. Puis tout le processus recommençait. À mesure que l'après-midi s'écoulait, les phases de jeu devenaient plus longues. Michelangeli répétait les passages une demi-douzaine de fois, changeant subtilement l'équilibre des parties intermédiaires dans la plus merveilleuse démonstration de technique pianistique qu'on puisse imaginer. Lorsqu'il fut satisfait du réglage et qu'il quitta la scène, j'eus l'audace de lui demander si je pouvais essayer les pianos. Et il l'accepta, à ma grande surprise. Il ne ressemblait à aucun autre que j'ai jamais vu, un toucher léger, avec peu d'enfoncement, chantant avec un timbre plein qui remplissait facilement l'immense espace du Royal Festival Hall et qui donnait l'impression d'être produit presque sans aucune percussion des marteaux. Vraiment étonnant. Eh bien, Arturo Benedetti, Michelangeli, nous allons retrouver une dernière fois dans un répertoire inattendu, dans ce que nous avons entendu cette semaine. C'est le 4e concerto de Sergei Rachmaninov, qu'il a enregistré en 1957 à Londres, avec l'orchestre Philharmonia, dirigé par Ettore Gracias.
Thank you.
Le final de Rack 4, le quatrième concerto en sol mineur opus 40 de Sergei Rachmaninov par Arturo Benedetti, Michelangeli et l'orchestre Philharmonia dirigé par Ettore Gracchis. Tout cela à retrouver sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.